Ces lectures sont l'occasion pour moi de rappeler un souvenir, une rencontre marquante que j'avais faite à Jérusalem, d'une jeune femme appartenant à une mouvance juive, comme on dit orthodoxe, c'est-à-dire de cet Israël pieux qui s'efforce de suivre en tout la loi du Seigneur. Et cette jeune fille m'avait dit, en faisant mon examen de conscience, je crois pouvoir dire que je n'ai jamais transgressé volontairement la loi du Seigneur. Elle parlait bien entendu de cette loi, de la Bible, et puis transmise dans la tradition juive. On dira, est-ce que c'était un fol orgueil ? Pas du tout. Elle disait ça en toute humilité, parce qu'elle voulait rendre grâce à Dieu de toute grâce reçue. De sorte que cette confession de l'œuvre de Dieu en elle, de son esprit, jaillissait du plus profond de son être, avec évidemment une immense joie d'avoir servi le Seigneur autant que c'était possible pour elle. C'est bien, pour moi, cette jeune fille était une vivante représentation, aujourd'hui, de cette même attitude que nous avons entendue dans le livre de Ben Sira, qui est absolument magnifique, que je vous rappelle. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Rester fidèle dépend de ton bon plaisir. Quelle vertigineuse altitude Ben Sira donne à notre responsabilité. Pas de destin inexorable qui déciderait de ce que nous devenons éternellement sans nous. Mais en même temps, il le dit, si tu le veux, tu peux observer les commandements. Ça veut dire que observer la loi de Dieu, la vie et la mort dépendent de ton bon vouloir. C'est extraordinaire comme phrase. Des modernes, un peu prométhéens, diraient de ton bon vouloir, de la vie et la mort dépendent de ta puissance. C'est même un grand débat d'actualité aujourd'hui dans notre pays. Si la vie et la mort dépendaient de notre puissance, eh bien, ce serait déjà l'enfer. Quelle charge ça nous imposerait sur les épaules si nous décidions de la vie et de la mort. Ce que dit Ben Sira, c'est beaucoup plus profond. La vie et la mort dépendent de ta volonté, c'est-à-dire de ce qui est en toi le plus profond, le moins dépendant précisément de l'habileté technique et de l'artisanat extérieur. C'est ce qui vient du plus profond de ton être. C'est ça qui décide de la vie et de la mort. C'est vrai que ça nous paraît énorme. Ben Sira nous dit que vivre ou mourir dépend de notre volonté. Il est dans la mesure de notre volonté de fixer notre destinée éternelle. Ça paraît curieux. Quand vous regardez chez saint Paul, il nous dit bien « Je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je voudrais ». Il exprime bien le discernement moral en termes de drame intérieur, vécu, presque tragique en fait. Eh bien, ben extraordinaire de la vie, la vie et la mort dépendent de ton bon vouloir. Est-ce que ça veut dire qu'il répète ça comme un perroquet parce que c'est simplement le contenu de la tradition juive? Pas du tout. Ben Sira commence son livre en nous disant « Mon fils, si tu veux servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. » Et de tous les auteurs de la Bible, hein, avec saint Paul sans doute, Ben Sira est un de ceux dont on connaît le mieux les détails de la vie. Nous savons par exemple qu'il a été traîné en procès, qu'il a été calomnié. On a même le sentiment, en tout cas, qu'il a été condamné à mort. Et il s'en est sorti miraculeusement. Il en rend grâce à Dieu. Ben Sira n'est pas du tout quelqu'un qui a été préservé des épreuves de la vie. C'est quelqu'un qui les a surmontées avec la grâce de Dieu. Et il peut dire, la vie et la mort dépendent de ton bon vouloir. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, vous voyez, Ben Sira. Pour moi, c'est le saint Thomas de l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de ressemblances d'ailleurs avec le saint patron de notre ville, et de ce couvent d'ailleurs. Il y a beaucoup de ressemblances. Ben Sira, vous voyez, fait penser, il écrit son livre au soir de sa vie. C'est-à-dire à un moment où justement il a l'expérience de la fécondité de la tradition dont il a vécu. Et il me fait penser un peu à ces personnes âgées qui ont une beauté particulière, dont les visages couverts de rides sont autant de sourires. Parce que, eh bien, c'est la confiance qui naît du service assidu toute sa vie du Seigneur. Alors, armé de l'exemple de cette jeune fille, et puis de Ben Sira, eh bien, nous sommes mieux équipés pour aborder l'effarante exigence de ce que nous dit le Seigneur dans l'Évangile, de ces antithèses, comme on les appelle. On pourrait être écrasé par cette exigence que le Christ a. On pourrait dire qu'elles accusent notre médiocrité, notre manque de détermination à suivre Dieu. Mais pourtant, il n'en est rien. Puisque, avec les antithèses, Jésus nous livre le fond même de son mode de vie, de la loi de vie qu'il a choisie pour lui, lui qui est né sujet de la loi juive. Le rabbin Neusner, un des grands précurseurs en monde juif, il doit être mort maintenant, je pense, mais en tout cas, il était encore actif il y a une trentaine d'années. Le rabbin Neusner, un des grands précurseurs, en fait, de l'intégration de Jésus dans la pensée juive contemporaine, réfléchissait et imaginait un petit dialogue à la suite d'un maître et d'un élève juif qui auraient lu justement le passage de la Bible, enfin du sermon sur la montagne qui a été proclamé tout à l'heure. Et donc le maître demande à l'élève « Est-ce que Jésus a bien parlé ?»« Oui. » « Est-ce que Jésus a ajouté quelque chose ?» Pardon. « Est-ce que Jésus a retranché quelque chose à la loi de Moïse ?» Non. « Est-ce que Jésus a ajouté quelque chose à la loi de Moïse ?» Oui. « Quoi donc ? » « Lui-même. » Jésus a médité en profondeur le Deutéronome, la grande charte de l'alliance de Dieu et d'Israël, où Dieu dit par Moïse « Vous ne retrancherez rien et vous n'ajouterez rien à ces lois. Vous les garderez telles que je vous les prescris. » Dans cette sublime harmonie d'exigence et de douceur, de mansuétude et de fermeté, cette composition unique qui nous fait pressentir que la Bible est parole de Dieu. Cette, non pas un amalgame justement, mais véritablement la vérité même des choses. Jésus y a médité en profondeur ces passages de Théronome. Jésus n'ajoute aucun commandement à la loi de Moïse. Jésus n'a rien à voir avec cette inflation législative, protubérante, cancéreuse, par laquelle des communautés humaines, de moins en moins capables de se gérer elles-mêmes, transfèrent sur des normes bureaucratiques le soin de décider à leur place. Ça, c'est abdiquer une liberté si chèrement acquise. Jésus n'a rien à voir avec ça. Et d'ailleurs, quand il en, dans l'Évangile, il y a des traces, hein, des invectives d'une violence inouïe qu'il lance contre ceux qui font ça. Vous, scribes et pharisiens, vous liez les autres de pesants fardeaux que vous-même avez été incapables de porter. Vos doctrines ne sont que des préceptes humains. Vous avez mis de côté les commandements de Dieu et pour y substituer vos traditions humaines. Donc, Jésus n'a rien à voir avec ceux qui chargent la barque. Rien à voir avec ce que disait Nietzsche, le chrétien qui porte sur les épaules en disant « chargez-moi, chargez-moi ». Rien à voir avec ça. Jésus nous parle bien plus profondément de cette observance. Qu'est-ce qu'il ajoute en fait ? Ben, il ajoute non pas des préceptes en plus, il ajoute une modalité entièrement nouvelle d'obéissance à la loi de Dieu. Cette modalité qu'il illustre lui-même. Nous avons entendu d'ailleurs un extrait dans l'Évangile. Celui qui rejettera un seul de ces petits commandements, qui enseignera aux hommes à faire de même, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Oui, il consonne avec un magnifique passage du quatrième livre des Maccabées, un livre d'ailleurs canonique dans les églises grecques, dans lequel on lit « Commettre un péché sur les petites choses a autant de poids que sur les grandes. » Ne nous laissons pas dérober, frères et sœurs, le désir inné que le sens de la foi inscrit en nous de vivre selon cette observance totale de la loi de Dieu. Ne la taxons pas trop vite de scrupuleux perfectionnisme, parce que c'est la loi du plus grand amour. Jésus nous l'a dit. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La justice, Aristote, saint Thomas, à la suite, l'a définie comme la vertu par laquelle on rend à chacun ce qui lui est dû. Une vertu de la volonté qui rend à chacun ce qui lui est dû. Jésus a pratiqué la justice, et en particulier la justice envers Dieu. Jésus voulait que la créature rende à Dieu tout ce qu'elle lui devait. Jésus voulait d'un immense désir que toute transgression, toute infraction à la loi de Dieu soit payée de son prix total. Il n'y a aucun masochisme là-dedans. Il y a quelque chose que Louis Chardon, notre frère, qui auteur de la Croix de Jésus, d'ailleurs composé dans ce grand couvent de Toulouse, en centre-ville, que vous connaissez, qui disait « Les rassasiements de la gloire céleste ne peuvent étancher la soif qu'il a de souffrir. » C'est-à-dire de rendre à Dieu toute justice, de payer jusqu'au bout l'immense dette contractée par l'humanité envers Dieu, qui n'a de sens, évidemment, que si nous l'entendons comme une dette d'amour. C'est exactement ce que veut dire la formule « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir ». Puisque la loi, en effet, c'est la mesure de la justice. La loi de Dieu, c'est la mesure de la justice de Dieu. La justice pratiquée par Jésus, c'est rendre à Dieu ce qui lui est dû, au niveau de ce qui est dû à Dieu. Voilà jusqu'où peut conduire cet éthos hébraïque qui est innervé entièrement par l'observance de la loi du Seigneur. C'est, on comprend pourquoi, certains exégètes modernes disent que justice doit être traduit tout simplement par sainteté. Alors, il y a une voie aussi pour nous, pour imiter cette justice parfaite. C'est celle des vœux. Nous sommes à la veille du carême, et je vous encourage pour ce carême à prendre moins de résolutions et à faire plus de vœux. Parce que les résolutions, c'est encore du volontarisme, de l'activisme. Tandis que les vœux, c'est une promesse faite à Dieu. Ne vous résolvez pas à lire la Bible chaque matin. Faites vœu de méditer les Écritures tant que vous le pourrez, et si possible chaque jour. C'est un vœu que je vous suggère, il y en a beaucoup d'autres, ce vœu de vous mettre au service du prochain, que sais-je. Mais ce qui compte, c'est de bien prendre cette volonté-là comme inspirée par le Seigneur, comme inspirée par ce désir de rendre à Dieu toute grâce reçue. C'est la voie, c'est bien en se donnant des vœux, c'est pas des objectifs, c'est moche toutes ces choses-là. Et les vœux, c'est l'attraction vers le meilleur, le désir de nous surpasser avec la puissance auxiliatrice de l'Esprit-Saint en nous. Et faisons grandir à la fois personnellement et ensemble, peut-être, ce désir du meilleur, qui est le secret même de la justice de Dieu. Amen.